fait que comment pourrait, pour les néolibérales, concevoir que des prélèvements obligatoires soient favorables à la croissance? Parce que c'est contre leur schéma, ça, quand même. Pourquoi? Parce qu'ils disent, si on prend, bah, j'ai moins, donc du coup, je peux moins investir. C'est ça qui est développé. Hein. L'idée de dire, si on allège les impôts, ça vous dégagera du pouvoir d'achat supplémentaire. Le pouvoir d'achat, vous allez pouvoir placer, investir, c'est bon pour la croissance et l'emploi, blablabla. C'est un théorème qui avait été aussi énoncé par le chancelier Schmitt, qui disait, pour les entreprises, il faut favoriser les profits d'aujourd'hui pour favoriser les impôts, qui seront les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Là encore, on a bien regardé, dans ce théorème, on a surtout vu les profits d'aujourd'hui qui étaient les profits d'aujourd'hui. Ah, ce n'est pas immanquablement en investissement et en emploi. Parce que les profits, ben, parfois ils sont investis, puis parfois ils sont placés, spéculés, etc. Voilà, ils demandent des rémunérations. Enfin, la destination des profits n'est pas automatiquement dirigée sur les investissements. Et on a observé la même chose pour les particuliers, c'était quand il y avait des gains d'impôts, ils ne plaçaient pas toujours, parfois ils plaçaient juste pour eux, quoi. Donc voilà, c'est un comportement, on peut dire, peut-être humain. En tout cas, les néolibéraux, ils devraient s'interroger sur le sens de certaines baisses d'impôts, parce que manifestement, économiquement, ça n'a pas produit les effets escomptés. Et pire que ça, on s'aperçoit aussi que financer, je disais tout à l'heure, l'éducation nationale, les infrastructures de réseaux de transport, un certain nombre de politiques publiques, c'est un effet bénéfique sur l'activité économique elle-même. Je reprends mon exemple de l'éducation nationale. Il a bien traqué au passage. Et l'éducation nationale forme, bien, il forme des gens qui vont ensuite travailler, qui vont être qualifiés. Et on a plutôt un niveau de qualification en France qui est relativement élevé. On peut dire que c'est un parfait, le système, d'accord, très bien. N'empêche que être formé, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose économiquement parlant. Les entreprises bénéficient d'une main-d'œuvre qui est plutôt qualifiée et qui est plutôt productive, puisqu'on a, y compris, le taux de productivité le plus élevé, pour le coup, on est le plus productif d'Europe. Hein. Voire même, donc, l'investissement public dans l'éducation nationale, y compris dans le salaire des profs, hein, ben c'est une bonne chose économiquement parlant. À rebours, imaginons que demain, un gouvernement arrive en disant, bon, il faut baisser les dépenses publiques. Ben, pour baisser les dépenses publiques, on va privatiser l'éducation nationale. Est-ce que vous croyez que l'éducation nationale va devenir gratuite? Ben non. Elle va continuer à devoir être payée. Est-ce que vous allez économiser comme impôt? Parce qu'on va vous baisser un peu les impôts si on privatise l'éducation nationale. Ben, vous allez devoir payer de votre poche avec ce que vous avez plus ou moins économisé. Simplement, comme il y aura un système privatisé sans devoir, enfin, sans obligation de neutralité, d'indépendance, d'égalité de traitement, ben, vous allez avoir un système éducatif à deux vitesses qui déjà s'instaure hein, depuis quelques années. Alors là, ce sera ouvert et à ce moment-là, ben, vous allez avoir le rabais pour les pauvres et puis quelque chose de personnalisé et pour le coup de performance, mais aussi très cher pour les riches, qui pourront se payer. Et tout ça ben, va accroître les inégalités et va dégrader notre activité économique. Hein, parce que ça devra dire qu'une partie de la population qui est formée par l'éducation nationale accessible à tous, une partie de la population ne pourra pas se financer une formation. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde le coût d'une année, par exemple, au collège, tel que l'OCDE encore l'évalue, imaginons que demain, je reprends l'exemple, on privatise l'éducation nationale, on vous allège un peu l'impôt, et puis demain, au lieu que toute la collectivité, entreprise comprise, paye pour l'éducation nationale, c'est juste les utilisateurs de l'éducation nationale qui vont payer. Un enfant au collège, c'est 8 000 euros. Au lycée, 10 000 euros. Imaginez les études supérieures. Qui peut se payer ça? Objectivement, pas grand monde. Ça veut donc dire qu'on a, pas simplement un problème social et de société, évidemment, c'est un cas d'école, l'éducation nationale, vous allez me dire que c'est facile. Mais vous pouvez multiplier les exemples, y compris les infrastructures, les réseaux de transport, évidemment les aides sociales, un certain nombre de choses qui soutiennent la consommation, qui soutiennent l'activité économique, qui forment et qui investissent. Alors, on prend toutes les politiques publiques, objectivement, c'est dur de dire laquelle il faut supprimer. D'ailleurs, on voit bien dans le débat sur la réduction des dépenses publiques, tout le monde dit, ouais, il faudrait réduire, puis les fonctionnaires, on les connaît, feignants, coûteux, efficaces. Par contre, non, mais pas l'infirmière, pas les flics, pas les profs, voilà. Et nous, on rajoute pas les agents des impôts et du Trésor, parce que c'est les comptables de la nation. Eh oui. Alors, bon, donc, pour vous dire que dire qu'il y a trop de prélèvements obligatoires, dire que ça n'a pas d'effet sur l'activité économique, c'est juste faux. Tout simplement, ça a un effet, et je trouve que le choix de société en France, c'est plutôt de mettre le pot commun que de payer individuellement. Et c'est tout, la seule différence, elle est là. Mais si on avait une vraie comparaison, c'est ça qui manque au fond, une vraie comparaison de tous les services qui, par exemple en France, sont publics et qui ailleurs peuvent être privés, et qu'on comparait le coût public et privé pour avoir la même contrepartie, on s'apercevrait, ça a été glissé dans une étude de l'OCDE, c'est passé un peu inaperçu, que pour vous, il faudrait que la moitié de la richesse nationale de tous les États soit consacrée au financement de ces biens et de ces services-là. C'est juste une évidence qui n'a jamais été rappelée et que les néolibéraux qui préfèrent la société privatisée omettent soigneusement de rappeler. Là encore, c'est du constat, c'est même pas de l'idéologie. On verra peut-être un peu après, mais c'est même pas de l'idéologie, c'est un simple constat, c'est-à-dire froidement mathématique. Et on peut développer ce discours-là sur la Sécu, parce que c'est intéressant quand on parle de prélèvements obligatoires, c'est les impôts, mais c'est aussi la Sécu. Aujourd'hui, on a un système de sécurité sociale qui est articulé sur, qui était bâti sur la notion entre guillemets d'assurance sociale, donc plutôt fondée sur les cotisations. C'est pour ça qu'il y a un débat sur le financement, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que être, comment dire, rémunéré quand on est malade, pas fraudeur, monsieur, okay, quand on est malade, ben, c'est simplement la contrepartie de ce qu'on a donné en termes de cotisations. Voilà. Être à la retraite, parce qu'on va sacrifier les retraités et leur dire ben, vivez de votre épargne, là encore, il va falloir vite sacrifier les pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer. Mais c'est simplement déjà la contrepartie de ce qu'ils ont versé, et c'est tout simplement, y compris économiquement, favorable parce que cette redistribution soutient la consommation. Et c'est au passage ce qui a permis à la France d'être un peu moins touchée au début de la crise que d'autres pays. Hein, parce que ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques ont profondément joué. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Pour dire que la contrepartie des prélèvements obligatoires, c'est la clé de tout. C'est-à-dire l'État ou la sécurité sociale ne prélève pas et ne jette pas dans un trou noir, dans un puissant fond, l'argent qu'il prélève, c'est aussitôt réinjecté dans le circuit économique. Donc, socialement, évidemment, c'est des incidences positives, mais économiquement aussi, on ne le dit pas assez, y compris à gauche de l'échiquier politique et d'un mouvement social. Il faut assumer ce discours économique. Oui, il y a une fonction économique, et une fonction économique positive. Alors après, selon le système fiscal, c'est plus ou moins juste, d'accord, mais sous le principe, c'est quelque chose de positif.